La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. All right, here we come, here we goes. Barge russe 399, convulsion continue du cauchemar consumériste. Donc pour cette barge russe, je vais faire appel à deux ouvrages, notamment un de Carl Zimmer et L'âme devint chair, et un autre de Thierry Paco, James Graham Ballard et le cauchemar consumériste. Que j'avais déjà interviewé à deux reprises, une fois sur l'urbanisme, dans mes barges russes sur l'urbanisme.
Barges russes
160, chaos urbanisme, les villes meurent aussi. Et une autre fois sur la barge russe 164, là sur l'ouvrage Sauvagerie de James Graham Ballard. Et là, je vais en refaire allusion en deuxième partie de barge par rapport au livre qu'il vient d'écrire, James Graham Ballard et le cauchemar consumériste. Donc je reviens en première partie sur l'ouvrage de Carl Zimmer et L'âme devint chair, qui porte sur le médecin anglais, si on peut dire, du XVIIe siècle, Thomas Willis. Donc du XVIIe siècle, au XVIIe siècle, le médecin Thomas Willis, qui est anglais, je vous saute ses études et tout, appréciait plus correctement les capacités du cerveau humain. Il a fait beaucoup de choses pour justement qu'on comprenne la psychologie. C'est lui qui a un peu créé la psychologie moderne. Donc, un peu au contraire de la philosophie aristotélicienne, une philosophie que je déplore personnellement. Je connais pas tout, vous me direz, mais bon, le peu que je connais, j'aime pas trop. Donc, dans le livre « Et l'âme devint chair » de Carl Zimmer, donc c'est une interprétation de Zimmer, c'est romancé un petit peu, c'est assez pour donner une lecture un peu plus sympa, quoi, aux éditions Zone Sensible. Donc, on retrouve dans ses expériences, dans les interprétations qu'il peut donner, des capacités de cerveau qui peuvent être des cerveaux plus petits, plus endommagés, d'autres qui sont plus grands, en pleine bien répandus. Bien organisé, bien où il y a de la place, quoi. Donc là, il parle de cerveaux d'animaux. C'était plus facile, je pense, de faire des expériences là-dessus. Aussi de criminels, c'était facile. Mais il a eu accès au cerveau d'aristocrate. Et là, toutes ces études ont pris une valeur grande, parce qu'il avait accès à l'élite, quoi, si on peut dire, de l'époque. Donc oui, après, est-ce que ça changeait vraiment? Je pense pas, mais à cette époque, sûrement. Donc Willis admet la passivité de... Bon, entre autres, beaucoup d'autres choses. Hein. Donc Willis admet la passivité de l'âme des animaux, par exemple, que je me permets de relier à celle, à l'âme amnésique de l'être humain. Car beaucoup d'entre nous sommes amnésiques. On refuse de se poser des questions. On n'est pas neuneux. Non, on est tous intelligents, ça j'ai déjà dit. Mais on a oublié qu'on l'était. Donc, on reste amnésique. C'est comme les chiens. Si tu veux qu'il soit bébête, tu lui parles comme un chien. Mais si tu veux qu'il soit intelligent et qu'il t'aime, tu lui parles comme un être humain. Et comme les enfants. Les enfants, c'est « Oh, il est mignon !» Non, alors là, t'es l'air d'un crétin. Non, c'est « Bon, alors, ça va, t'as passé une bonne journée ?» Même s'il comprend pas tout de suite, il comprendra. Bref, chacun fait comme il veut, chacun est libre, on a tous les droits. C'était dans la barge russe d'hier, c'est ce que je disais. Dans la barge russe 398, je disais ça. Donc, hommes et animaux sont doués de perception, de conscience, et sont capables d'apprendre des choses. Ça, c'est sûr. Moi, je vois que depuis que j'ai un chien, je vois qu'il prend des habitudes, et il prend des habitudes, le chien. C'est dingue. Je trouve ça génial. Donc, de ce point découle une échelle hiérarchique entre les êtres humains et vivants. Selon Willis, encore, l'âme comporte une partie sensitive, donc plus sensible à la sensibilité des gens, qui est infiniment au-dessus de la portée de nos sens. C'est le truc, c'est ce que je dis, c'est le côté invisible, quoi. Et une partie matérielle permettant, une partie qui s'appelle l'âme, qu'il appelle l'âme matérielle, qui permet à l'être de respirer et de se mouvoir. Et là, ça, c'est la réalité avec un grand R, où on se côtoie, on se communique, ça nous permet d'échanger. Donc le cerveau humain crée des mémoires, des habitudes, des perceptions et des imaginations. Cette partie de l'âme, toujours selon Willis, se portait garant d'autres facultés, comme celle de l'intelligence, de l'inventivité ou encore de l'affection. Donc les esprits, contrôlés par les cerveaux, et j'ajoute le cœur, parce que quand même c'est vachement le cœur, c'est la pile de l'être humain, même de l'être vivant, mais le cerveau contrôle ça. Les esprits contrôlés par les cerveaux transforment les systèmes nerveux en réacteurs chimiques. Si on met une allégorie par rapport à ça, en réacteur chimique. Notre corps est chimique, quoi. Donc, il suffit d'injecter une substance, qu'elle se mélange au sang, qu'apparaisse une image sombre et déformée du monde extérieur, que l'âme la prenne pour réalité. Assombrie par cette substance, comme du sucre, dans le sang, l'esprit et ses pensées se trouvent corrompus dans le cerveau et déforment la manière de penser. Alors là, je vous donne le sucre en exemple, ça peut être la drogue. Hein. C'est pareil, n'importe quoi qu'on nous met dans le sang peut nous influencer dans nos états d'esprit. Et là, on est en plein boom du vaccin, du pain béni, ça, pour tous les complotistes. Ils vont se dire, ah ouais, ben donc, et voilà, c'est Carl Zimmer qui interprète Thomas Willis. Carl Zimmer, c'est l'auteur de l'ouvrage, qui a fait une étude de l'époque, de tous les deux. Il y a même Hobbes, vous savez, celui qui a écrit Léviathan, il en parle. Il a été élève de Willis, Hobbes, parce qu'il donnait des cours aussi. Donc c'est quand même dingue. Je vous le relis parce que c'est quand même pas mal. Il suffit d'injecter une substance, qu'elle se mélange au sang, qu'apparaisse une image sombre et déformée du monde extérieur, que l'âme la prenne pour réalité, assombrie par cette substance, comme du sucre par exemple, ça c'est moi qui le rajoute, qui se mélange au sang, l'esprit et ses pensées se trouvent être corrompus dans le cerveau et déforment la manière de penser. Ouais, c'est les drogues, quoi. Enfin, en gros, c'est ce que font les drogues. Le sucre, ou la cigarette, ou l'alcool, ou la coke, ou l'héroïne, ou tous ces trucs-là, quoi. Selon Willis, toujours Thomas Willis, lors d'une grave maladie, l'âme rationnelle se trouve irréversiblement affectée. Cette âme, avant la maladie, est soumise à des visions et des croyances un peu hallucinées, qui ne dépendent pas justement de la réalité avec un grand R, des trucs vraiment qui sont intérieurs. Qui peuvent être donnés par des frustrations, des psychoses, névroses. Pour Willis, les maladies mentales relèvent plus souvent de la partie de l'âme rationnelle. C'est-à-dire que ça vient de l'extérieur, quoi, les maladies de l'âme. Si on se tape une maladie grave, cérébrale ou non, mais vu que tout part du cerveau, on va dire cérébral ou non, ça change, une maladie grave, ça va forcément s'apporter en... C'est par rapport à notre extérieur, à nos façons de parler, de communiquer avec le présent, avec ce qui nous entoure. Et c'est là que va se créer le mal, les frustrations, les psychoses. Je le redis, parce que c'est à cause des frustrations que beaucoup de choses mal arrivent. On se frustre, c'est totale liberté, mais ouais, ça faut mieux pas que je dise. Eh ben non, moi je le dis. Ah ouais, il faut que ça pète. Hein. Il faut dire les choses. Après que si même si t'as tort, bah t'auras tort, mais tu seras libéré. Et c'est ça qui est important, c'est de se libérer. Les conceptions morales forgées dans nos différents cerveaux, car on a plusieurs parties du cerveau, il y a le cerveau droit, le cerveau gauche notamment, peuvent entrer en collision, causant du tort à tous les côtés. Ça, c'est vous. Ça pour expliquer, il y a Frouin qui avait parlé des bombes métaphysiques. Et je adore ce concept qu'il avait créé, parce qu'une bombe métaphysique, c'est très christique, très catholique, comme façon de penser, même si je ne sais pas de quel, s'il est religieux ou athée ou quoi que ce soit. Mais l'idée est que si tu fais quelque chose de mal, ça va t'être rendu à la même échelle. Bon, c'est moi je trouve que de mon côté aussi, je peux remarquer les mêmes choses. Bon, bah c'est comme ça. Hein, que ce soit, ça mais après ça, moi je ne le mets pas sur le dos de Jésus ou de la chrétienté ou d'une quelconque religion. Je suis plutôt fataliste, je me dis bon, bah, c'est comme ça. Donc si nous parvenions à prendre nos distances avec les illusions du réalisme moral, si nous distinguions le bien et le mal comme le rouge et le bleu, il y aurait sans doute moins de malentendus et de souffrances dans le monde. Ça, c'est de Carl Zimmer. C'est dans sa conclusion, Le microscope de l'âme. Du livre Et l'âme de Vincher, excellent, passionnant ce livre. Donc je continue. Notre âme est matérielle et pourtant immatérielle. Elle est le produit d'une chimie, mais aussi d'un réseau d'informations dynamiques. Un réseau qui déborde le cerveau individuel. Est relié aux autres cerveaux par des mots, interconnexion. Des regards, des gestes et d'autres signaux tout aussi immatériels. C'est exactement le truc dont je parle le plus souvent, quoi. C'est le côté invisible, c'est ça, quoi, en gros. C'est le cerveau, en fait, le patron du côté invisible. Donc, dans la réalité, avec un grand R, le patron, c'est le homodernisme, c'est ceux qui vivent dans des atolls, dans le ciel, ceux qui ont plein de pognon, et qui en veulent plus, pas forcément de l'argent, mais du pouvoir. Et par contre, du côté invisible, c'est le cerveau. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à vous poser des questions, et à vous poser des questions, remettre en cause plusieurs choses, des expressions, afin que on arrive à utiliser nos cerveaux et que la vie soit moins pénible. L'âme et le monde, deux choses unies où les esprits faisaient la navette entre les deux. Et là, moi, je ne parle pas au passé, je vais la refaire. L'âme et le monde, deux choses unies où les esprits font la navette entre les deux. Donc on vient d'écouter Black Mud, Black by the Black Keys. Donc maintenant, on va passer au cauchemar consumériste de Paco. James Graham Ballad et le cauchemar consumériste. Paco, que j'avais déjà, donc, comme je disais, interviewé pour le, sur Sauvagerie de John G. Ballad dans la Barge Russe numéro 164. Et aussi pour sur l'urbanisme et le chaos. Une série de, que j'avais faite là-dessus. Barge Russe 160, chaos urbanisme, les villes meurent aussi. Donc dans le cauchemar consumériste est retracée l'existence de Ballard et sa principale inspiration qui a pu faire, il a pu faire tous ses livres, qui sont les perturbations sociétales et psychiques surtout engendrées par le mode de consommation occidental de américain à l'époque où ça a été écrit. Et bon, je vais encore vous donner quelques passages, hein, bon, qu'il faut lire. Donc Ballard estime trois niveaux d'évolution. Il y a le monde des événements publics. Donc ça, si vous suivez les Barges Russes, c'est la réalité avec un grand R. L'environnement personnel immédiat. Et ça, ce serait le relief de l'illusion. Donc le monde extérieur. Ça, on a pu le voir en première partie de l'émission, même l'illusion que peut donner nous donner la réalité qu'on voit tous les jours. Si on reste amnésique, ça va être l'illusion. Donc c'est ça, c'est des reliefs, c'est l'environnement personnel immédiat. Et ensuite, en troisième partie, en troisième niveau, Ballard dit le monde intérieur de l'esprit. Donc ça, ce serait, comme vu précédemment dans une barge russe, les tangentes au cercle de l'illusion, justement. Vous savez, il y avait un cercle, et toutes nos vies, toutes nos existences sont des tangentes à ce cercle, mais qui sont attirées par un point magnétique qui attire tous les amnésiques, tous ceux qui ne se posent pas de questions, eh bien, ils sont attirés par ça. Donc Ballard vise à rendre intelligible la société contemporaine. Alors, je vais beaucoup citer Thierry Paco. Je le dis pas à chaque fois, je le cite, mais c'est quasiment que de lui dans cette partie sur Ballard. Donc maintenant, on va peut-être écouter un morceau de music, you know? Oh yes, which one do you want to hear, no baby love? Eh bien, moi, j'écris... Hein? Ouais, bah ouais. Moi, j'écouterais bien... Ouh, ouais. Ouverture de l'opéra de John Adams. L'ouverture de l'opéra Doctor Atomic. Donc, dans son ouvrage Crash à Ballard, que j'ai beaucoup été touché par cet ouvrage, Ballard illustre la voiture automobile, il l'anthropomorphise, comme dirait Paco, il la rend humaine, afin que des désirs sortent de la voiture et que l'être humain, le conducteur, ait des désirs pour elle, qui fait d'elle un partenaire métallique. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la recherche de l'adrénaline. Le souffle antépénultième. Antépénultième, ça veut dire avant-dernier. C'est du grec. Devant le risque que ce soit l'avant-dernier.
Le penultième, quoi.
Avant que ce ne soit l'export final de notre âme vers l'éternel, vers l'abîme, en fait. Enfin non, vers les... qu'on meurt, quoi. C'est ce risque. Et tu vois, hier, j'étais au skatepark et je voyais les skateurs, les mecs, il y en a qui n'avaient pas de protection, qui n'avaient rien, et ils roulaient à fond. Et ils cherchent aussi ça, ils cherchent ce moment d'adrénaline. Ah, je trouvais ça, ça m'a... waouh, excellent, quoi. Et ça, vraiment, j'adore. Et c'est cette illusion-là, et c'est cette recherche, je trouve ça, mais hyper fort, quoi. Et donc, en première partie, je parlais de Thomas Willis, qui a fait aussi des études sur l'épilepsie. Étant moi-même épileptique, je vois cette... j'ai écrit des textes là-dessus, j'arrive pas à les retrouver, ça m'embête, mais comme quoi, après une crise, t'as vraiment l'impression... Maintenant, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, parce que je fais attention, j'ai vieilli. On a l'impression de traverser un champ de bataille, quoi. Que ça pète dans tous les sens, sauf que on perd tout contrôle pendant une fraction de seconde. Et je trouve que c'est des comparaisons. Enfin, on va voir la mort, quoi. On est en face. C'est absolument. Mais c'est dingue, quoi. De mon côté, j'adore ça. J'adore en faire des crises d'épilepsie. Bon, je vous avouerai que j'évite, hein, mais. Parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et pas que mentalement, ça fait des dégâts physiquement, dans le physique mental, mais aussi ça secoue, quoi. Donc selon Paco, encore une fois, les liens inconscients que chacun tisse avec sa voiture, de l'intuition de Ballard, hein, lui donnent un symbole de puissance, voire de sexualité. De sexualité morbide au conducteur. Et ça, c'est ce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé la barrage russe 383 quand je parlais des surhommes dans leur voiture. C'était ça, en fait. Les mecs, ils se sentent pas pisser. Ils ont des... Tu vois, tu prends le truc de Nietzsche, ils se sentent hyper forts, hyper puissants, quoi. Tu vois, si toi, tu passes en vélo et que t'arrives à 15 km/h, 20 km/h, ah non, eux, ils ont le droit de te couper la route à... T'es à 2m2, mais non, ils ont le droit, eux. Mais non, parce que si tu te plantes dedans, eux, ils auront pas mal. Tu vas défoncer leur voiture, ils vont sortir, ils vont s'exciter, et toi, t'auras mal, t'auras bousillé ton vélo, mais non, mais eux, ils pourront repartir. Enfin bon. Je me prends la tête, hein, vous me direz. La paranoïa, quoique je pense pas que ce soit de la paranoïa. Hein, il y a des trucs qu'on voit dans le regard des gens, quand même. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas très important, mais... Donc, voilà. Excellent. Donc, il m'avait parlé qu'il sortirait ça, Thierry Paco. Eh bien, voilà. Sorti. Le cauchemar consumériste. Donc, James Graham Ballard. Grand auteur d'anticipation. SF. Voilà.
Schwartz, tu me copies?
Ouais, tout est sous contrôle.
La barge russe est à 14h.
Ok, Johnny. Lundi ou vendredi ?
Ouais, et toi ?
Le mercredi soir, 9:30. The Russian Fortune.
Who's here to serve you and to complete your desire ?
Roger.